époque, et notre structure et notre distribution géographique, mais je ne vous ai pas dit ce que nous faisons. Je vous ai dit que c'est une communauté d'utilisateurs Internet individuels. Nous avons 450 structures d'âge actives partout dans le monde. Nous avons différents mandats établis par les règlements intérieurs de l'ICANN. La première concerne les missions de commentaires en réponse aux commentaires publics de l'ICANN. C'est une partie très importante de la mission de l'ICANN pour pouvoir soutenir cette structure de multipartite, nous assurer que tout le travail fait sera soumis à des commentaires publics. Il peut y avoir des commentaires de personnes privées ou bien des commentaires des comité consultatif d'at-large. Je vais vous raconter de manière très générale le processus. Nous essayons toujours de parvenir à un consensus au sein de notre communauté. Nous essayons d'élaborer une déclaration et l'envoyer ensuite. Nous savons que lorsque nous en sommes à l'étape des commentaires publics, il y a eu beaucoup de déclarations très sérieuses et beaucoup d'allers-retours pour pouvoir parvenir à ce consensus. Donc, cette déclaration a un poids considérable sur les décisions globales que le conseil d'administration ou un groupe de travail puisse avoir à prendre pour remettre une décision finale. Mais ce n'est pas que cela que nous avons à faire. En fait, l'une des questions importantes sur le comité consultatif at large, c'est que nous pouvons faire des commentaires sur quoi que ce soit lié au fonctionnement de l'ICANN à tout moment. S'il y a donc un thème lié à la structure générale de l'ICANN ou des questions qui n'ont pas été soumises à des commentaires publics, mais sur laquelle tout le monde fait des commentaires. Nous pouvons envoyer un commentaire au conseil d'administration ou à l'équipe du personnel y afférent ou à la présidence ou à un groupe de travail, à qui que ce soit. Nos membres en général sont invités en tant que personnes individuelles au processus de développement des politiques de la GNSO. Bien sûr, ils ne peuvent pas voter là-dedans, mais ils ont la possibilité de participer au groupe de travail de la GNSO. Et moi, j'encourage fortement cette participation, parce que si vous savez que si l'on attend la fin de tous les travaux et que l'on commence à faire des critiques à la fin de ce travail, quand tout le monde a fini de travailler, cela n'est pas du tout une attitude populaire, et à ce moment-là, on va remettre en cause ce que nous disons et on nous demandera pourquoi on n'a pas participé dès le début. Donc, nous encourageons tout le monde à s'investir aussi précocement que possible dans tous ces processus et à faire partie des équipes constituées lorsque la GNSO et forme un groupe de travail pour travailler sur un point particulier. Nous pouvons aussi émettre des commentaires sur tout processus extérieur à l'ICANN. S'il est enfin lié à l'ICANN. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons souvent parce que nous avons suffisamment de travail ici. Mais, par exemple, il y a eu une suggestion du département du commerce des États-Unis par rapport au renouvellement du contrat avec l'IANA et nous avons envoyé un commentaire en ce sens-là. La ligne de division des fonctions est très fine pour nous parce que nous sommes un regroupement au sein de l'ICANN et c'est assez bizarre que nous nous trouvions en position de faire des commentaires sur un contrat qui sera passé avec un tiers. Nous sommes en quelque sorte, nous ne sommes pas tout à fait indépendants, mais nous avons une opinion indépendante. Nous pouvons vraiment obtenir les commentaires des utilisateurs réels d'Internet, même si cela pose des conflits avec la vision officielle de l'ICANN. Bien sûr, il y a beaucoup d'organisations qui font partie d'une structure plus grande qui ne peuvent pas faire cela. Nous faisons partie des groupes de travail établis avec les différentes communautés et dans ces groupes de travail intercommunautaires, il y a différents présidents. Non seulement un président, il y a un président de chacun des comités de l'ICANN participant à l'établissement d'une charte de principes pour ces groupes de travail. Il n'y a pas trop de groupes de travail intercommunautaires parce qu'il est évident que les points de vue des différentes organisations de soutien, des comités consultatifs peuvent être différents. Mais l'on établit un règlement intérieur, une charte de principes pour laquelle tout le monde donne son accord. Nous transmettons le message de l'ICANN pour tous les utilisateurs de l'Internet. Cela fonctionne de deux manières. Il y a les structures régionales qui sont plus vastes et elles font leurs commentaires au comité consultatif d'at-large. Et cela fait que l'information aille dans un sens et puis ensuite qu'elle revienne dans un autre sens. Les râleaux encouragent et promeuvent tout ce qui se passe au sein de l'ICANN et s'assurent que les structures à de large aient pu prendre connaissance de tout ce qui a lieu. Nous communiquons toutes les nouveautés sur les programmes de nouveaux GTLD, les programmes qui y sont associés. Nous demandons aux membres de nos structures à de large de participer au développement des politiques ou aux déclarations qui sont formulées. Enfin, nous avons été mandatés l'année dernière, je tends à perdre le sens du temps, pour présenter des objections pour les nouveaux GTLD de la communauté. Ce mandat a été assez limité. Il concerne une question d'intérêt public limité. Les objections que nous pouvons présenter se rapportent à cela. Je ne rentrerai pas dans le détail de cette fonction, mais il est important de reconnaître que c'est la première fois que At-Large reçoit un rôle opérationnel plutôt qu'un rôle consultatif. Et cela a été quelque chose qui a été reconnu par la communauté. Nous nous sommes battus pour avoir ce droit, parce que nous estimions qu'il fallait que les structures at-large et les communautés au-delà de ces structures puissent présenter des objections sans être obligées d'avoir à se soumettre au reste des processus existants, où il peut y avoir des barrières ou des obstacles plus importants. Et bien sûr, lorsqu'on présente une objection à une candidature d'un nouveau GTLD, il faut avoir des connaissances plus vastes. Et c'est quelque chose que nous pouvons fournir pour présenter les objections. Nous avons présenté 3 objections pour la même chaîne de caractères, mais cela correspondait à 3 candidats différents. C'était un processus ascendant et nous avons demandé des commentaires de la part de la communauté. Nous avons demandé si la communauté voulait présenter les objections. Ceux qui ont voulu le faire l'ont fait dans le groupe de travail au sein de At-Large qui s'occupait de cette thématique. Et cela a été vérifié dans ce groupe de travail pour savoir si les objections devaient être incluses dans une catégorie ou dans une autre. Il n'y a eu que 3 objections qui ont été finalement émises après un vote avant de les présenter. En ce moment, elles font l'objet d'un traitement, des discussions se poursuivent à la Chambre internationale de commerce. C'est un processus qui leur revient et au comité consultatif d'at-large. Maintenant, nous allons passer à la prochaine diapo. Nous travaillons de manière ascendante. Si vous regardez ce schéma qui est devant vos yeux, à la base de la pyramide, il y a ces 160 structures at-large. Chacune d'elles, disons, fournit des informations pour une organisation régionale at-large. Et chacune d'elles, à son tour, nourrit, disons, le comité consultatif d'at-large. Il y a toujours des confusions avec at-large et ALAC. At-large, c'est la communauté mondiale des utilisateurs d'Internet. Et ALAC, c'est le comité de 11 membres sélectionnés pour donner le feu vert final pour avancer sur une discussion ou pour l'approbation de quelque chose qui a été débattu. Nous pouvons peut-être revenir un tout petit peu en arrière pour que vous voyez, si vous regardez sur ALAC, en soi, il y a 3 personnes par région, ce qui fait que nous avons 15 personnes au total. De ces 3 personnes par région, 2 sont élues par la région elle-même au moyen d'une procédure qui fait qu'ils présentent leur déclaration d'intérêt et toute la région vote. Toutes les structures at-large ont la possibilité d'émettre leur voix et la personne qui obtient le plus grand nombre de voix est celle qui est élue représentante de la région. La troisième personne est choisie par le comité des nominations. Est-ce que vous avez déjà vu le représentant des comités de nomination? Bon, c'est un peu difficile d'avoir eu des présentations un lundi. Le comité des nominations, le NOMCOM, choisit un membre pour chacune des régions, ce qui est très bon. Parce que l'un des problèmes, lorsqu'on choisit les personnes au sein de la communauté à laquelle on appartient, parce que c'est ce qui se passe finalement, ce qui se passe, c'est qu'on est toujours avec les mêmes suspects, pour ainsi dire. Et lorsqu'on a quelqu'un qui a été nommé par un homme comme par un comité de nomination, cela nous permet d'avoir des nouveaux regards, un regard plus frais, avec des idées neuves, des gens qui ont une mentalité complètement différente, ce qui nous permet d'avoir un comité absolument dynamique, capable d'écouter non seulement notre communauté par les structures at large, mais chacun de ses membres, chacun de ses représentants écoute les personnes de sa propre famille, les personnes qui sont dans la rue, celles qui interagissent au quotidien avec l'Internet. Bien des fois, ils reçoivent beaucoup de critiques parce qu'ils font partie de ces systèmes terribles de l'ICANN. Donc, nous retenons ces critiques et nous essayons de modifier ce qui est mauvais, de diffuser ce qui est bon. Donc, on peut, au moyen de ces communautés, modifier les aspects qui ne sont pas positifs. Ce comité de 15 membres, comme je vous le dis, c'est un comité qui émet sa voix, son vote. Quand on fait une déclaration, il y a un vote. Nous travaillons sur le consensus normalement. Nous ne sommes pas obligés de passer au vote. Nous pouvons donner notre accord à quelque chose. Mais si quelqu'un demande à avoir un système de vote, bon, on s'en sert. Que l'on soit en face à face, en levant sa main pour émettre sa voix, ou bien un système en ligne qui permet à chacun de savoir qui a voté quoi. Donc là, nous sommes très transparents. Là où il n'y a pas de vote ouvert ou secret, c'est lorsqu'il y a des personnes qui vont être élues pour le comité ou des leaders pour les organisations à large. Dans ce cas-là, le vote est secret parce que cela est beaucoup plus simple, plus juste, plus confortable pour tous. Tous ces 15 membres d'ALAC votent aussi pour élire les membres du conseil d'administration. Ils choisissent la personne numéro 15. La personne qui occupe la 15e place, pour ce cas particulier, c'est Sébastien Bachelet, est élu de cette façon. Je crois qu'il a pris ce rôle il y a 3 ans. J'ai pris un peu la notion du temps. Il a fait partie du conseil d'administration pendant assez longtemps. Les membres du conseil d'administration ne représentent plus la communauté. Ils prennent ce rôle et ils doivent s'occuper de représenter les intérêts d'ICANN. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que cette personne vient à l'origine de notre comité. Sa manière de réfléchir, bien sûr, représente notre manière de penser, notre modalité de penser. Parce qu'autrement, ce ne serait pas la peine qu'il nous représente au sein du conseil d'administration. Donc, cette approche ascendante commence par les structures at large, ça passe dans les structures régionales at large, et puis ça arrive dans le comité. Si ALAC dit à Uralos ce qu'elle doit faire, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, bon, il n'y aura pas un bon travail. C'est difficile à expliquer et de dire des choses ce matin, mais vous pouvez imaginer ce qui se passe. Voilà, donc c'est un processus ascendant. Je sais que l'image n'est pas trop claire, celle-ci en tout cas, mais on va vous envoyer le fichier. Si une structure est large, qui est en rouge là à gauche, c'est un cercle rouge, elle veut faire un commentaire. La première chose, c'est qu'il y a un débat au sein de l'organisation régionale at large. Nous avons la liste des diffusions. Certaines organisations à large ont des groupes de travail et cela est très positif parce que dans certaines régions, il est plus difficile de travailler parce que, par exemple, en Amérique latine et aux Caraïbes, on travaille aussi bien en espagnol qu'en anglais. Et en Afrique, on travaille en français et en anglais. Il faut avoir dans les moyens technologiques pour avoir une interprétation simultanée, une traduction de tout cela de façon immédiate. On travaille, il faut travailler, il faut téléphoner, par exemple. Tous les appels qui sont faits avec une interprétation simultanée en anglais, français et espagnol. S'il y a un consensus dans cette RALO, on passe au prochain niveau où la RALO débat de ce sujet avec d'autres RALO. Et si trois de ces RALO ont un sentiment déterminé sur un thème X et elles pensent qu'il faut soulever cette question, on présente cela à la LAC qui se trouve sur le côté droit de l'image. Disons, ça s'est déplacé, super, c'est merveilleux. Dans le prochain niveau, nous avons Alak qui s'occupe de débattre de ce sujet. Cela se passe quand on demande à quelqu'un de prendre le devant, hein, de s'occuper de la direction des choses. Et c'est là que l'on prépare une déclaration. Donc, c'est Alak qui rédige donc dans un groupe de travail, un petit groupe de travail ad hoc, où l'on fait la première déclaration, c'est une page wiki, c'est une page où bon nombre de personnes peuvent éditer le contenu, ajouter ce qu'ils estiment nécessaire d'ajouter. Donc ils font cela, et le personnel d'ICANN, de At Large, demande les commentaires de la communauté. Les gens, donc, intègrent leurs commentaires dans cette page wiki et quelques jours avant de décider d'aller de l'avant, nous avons en général des dates butoirs pour toutes ces procédures, c'est là que le débat s'arrête. Celui qui dirige ou l'équipe qui dirige fait la dernière, cette dernière version et présente cette version préliminaire à l'ALA qui le ratifie. Donc, lorsque l'on reçoit ce texte, cette déclaration, ils savent quel a été le vote, nous expliquons quel a été le processus, nous disons qui a dirigé tout cela. Il y a toute une série de questions qui trouvent leur réponse à ce moment-là. Une fois qu'il y a une ratification, cela est publié ou cette déclaration est envoyée là où il faut qu'elle soit adressée.
Demande de commentaires publics. Je vais essayer de faire vite parce qu'il y a une limite de temps. Quand on fait la demande de commentaires publics, cela se passe dans le site web de l'ICANN. L'ICANN ou les RALO décident alors de regarder cela et de dire s'il faut faire une déclaration là-dessus ou pas. Si celui qui s'occupe de diriger la question, la page wiki, le feedback, etc., à son travail de vie, mais le reste, oui, alors il faut travailler ardemment pendant cette période de 21 jours. Nous aussi, on est membres d'organisations de soutien qui ont des structures similaires et bien des fois, ils ont plus de temps parce que nous allons toujours, nous courons toujours contre la montre, pour ainsi dire. Le dernier Euh, Avant, on faisait des déclarations qui disparaissaient, mais il y a quelque temps que l'on dit que, eh bien, il faut être très soigné, il faut tout avoir ensemble, les lettres au conseil, les demandes de commentaires publics et tout. Donc, dernièrement, on a bien organisé la question. Et par la page Wiki, vous allez voir les commentaires pour les commentaires contre le point de vue d'un grand nombre de participants. Finalement, les groupes de travail à large et dans ce cas, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un représentant de structure à large ou un membre du comité conseil. Du comité consultatif à large. Dans certains cas, on peut dire qu'il ne faut pas être membre pour pouvoir travailler à large. C'est le point de vue des utilisateurs d'Internet. Il faut avoir le moins de limitations possible. Nous avons beaucoup de groupes de travail pour diviser le travail. Pas tout le monde est intéressé dans les domaines internationalisés. Pas tout le monde est intéressé au nouveau GTLD. Pas tout le monde est intéressé au renforcement des capacités. Alors, tel que je l'ai déjà dit, notre communauté est si diversifiée que nous avons des experts dans tous les domaines. Alors, pour éviter de recevoir 1000 mails, parce que normalement, on reçoit des centaines d'emails par jour, hein, on a fait ces structures de groupes de travail qui sont ouvertes à tout le monde. Tout le monde peut y participer. Et je vous suggère de voir ces trois pages. Si vous avez des questions à poser, et si vous voulez le faire cette semaine, vous allez pouvoir courir auprès de moi parce que je vais courir toute la semaine et vous pourrez me poser les questions. Maintenant, il est 7h31, je suis en retard d'une minute, mais je peux accepter vos questions parce que je vais arriver en retard à toutes les réunions pendant toute la semaine. Janice, j'aimerais bien le faire, mais il faut passer à Alice parce qu'elle a aussi ses contraintes de temps. Merci beaucoup. Il y a une participation à distance. Que se passe-t-il lorsqu'il existe un conflit entre le président qui représente à large et le membre qui occupe un site dans le conseil comme coordinateur? Olivier prend la parole. Il y a une transcription. Olivier pour la transcription. S'il y a un conflit entre la personne choisie par at large, le comité consultatif at large pour le conseil d'administration, je ne suis pas sûre si cela s'est vraiment passé, mais on peut être très persuasif. Des fois, on a des points de vue différents. Un point de vue différent de celui du conseil ou différent de celui de la personne qui occupe un poste au sein du conseil. Bien des fois, on n'est pas d'accord avec le point de vue de tout le conseil. Il n'y a pas de canal spécifique pour dire, eh bien, on va sortir ce membre du conseil ou lui dire, eh bien, je crois que c'est pas très populaire ce que vous faites ou des choses comme ça. Et lui montrer notre point de vue à nous. Il y a un seul membre du conseil qui nous représente et nous, on fait des commentaires directement au conseil d'administration et on leur demande de répondre à nos déclarations. Il existe une raison Et ils doivent nous donner une raison pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. De cette manière, nous pouvons établir un dialogue avec l'ensemble du conseil d'administration et pas envoyer un avis et puis après on n'entend jamais plus parler. Cela se passait il y a quelques années, mais comme maintenant il y a une documentation de tout le processus, une justification de toutes les décisions, ce qui est apprécié par tous les membres du conseil, et dans le 99% des cas, nous recevons une réponse aux questions que nous avons posées. Je m'appelle Paul Mochenet et j'ai une question à vous poser par rapport à la manière dont le chapitre de Société Internet peut faire partir d'une structure à large. Quelle est la procédure à suivre? Merci de votre question, parce que j'ai oublié de dire cela dans ma présentation. Un chapitre ou une structure à large potentielle va dans une page web. Vous allez à www.atlargeican.org. Le voilà sur l'écran. Hein. Il y a une page qui vous dit le processus exact de la candidature. L'organisation complète une demande qui répond à plusieurs questions. Cela est envoyé à notre personnel par courriel. Et alors, le personnel fait toute une procédure de diligence due pour voir que toute l'information de la page soit correcte, vérifier qu'il existe un site web, que les réponses ne sont pas inventées, qu'elles sont des réponses réelles. Puis après, tout cela est envoyé à l'organisation ad large régionale de la région géographique concernée. Et l'organisation ad large régionale partage cela avec tous les membres des structures ad large de la région, avec la même information que vous avez fournie, plus l'information de la diligence due fournie par le personnel. Alors, chacune de ces structures ad large peut dire oui ou non à la demande. On procède au vote et cet avis ou ce conseil est donné par la RALO au comité consultatif at large. Le comité consultatif at large peut accéder à l'information. Il a l'option de dire oui ou non. Oui à l'avis de cette RALO ou rejeter directement la demande. Et bien des fois, elle est contre l'avis de la RALO. Alors, il y a différents niveaux de sauvegarde, pour ainsi dire, et pour assurer que chacune des demandes est prise en compte très sérieusement. Parce que cette structure ad large n'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire, il faut remplir certains critères et l'organisation doit avoir un lien direct avec les utilisateurs d'Internet. Ce qui arrive à Adlar, c'est qu'on ne peut pas éviter d'avoir une connexion avec des entités corporatives, mais si c'est un peu mélangé, eh bien, il faut qu'il y ait une connexion directe avec les utilisateurs d'Internet pour que dans cette organisation, les membres ou un grand segment des membres de l'organisation doivent être des utilisateurs d'Internet. Je sais que pour un chapitre d'ISOC, par exemple, il y a des membres individuels. Nous avons certains chapitres d'ISOC qui sont des structures ad large. Ce que je dis, c'est que l'ICANN peut en réalité prendre, s'approprier de notre vie, parce que c'est une addiction, hein. Si l'on est un chapitre qui vient de commencer et si l'on a différents projets en général, on dit, ou au moins dans mon cas personnel, on se dit, eh bien, quand le chapitre vient de commencer, on a beaucoup de projets et il y a une personne qui sera en relation avec le travail de l'ICANN. Mais vraiment, il y a tellement de choses à faire que toute l'attention du chapitre sera consacrée à l'ICANN. Mais les chapitres qui fonctionnent depuis longtemps, qui ont leurs propres organisations, qui existent depuis longtemps et qui fonctionnent convenablement, alors là, Nous vous encourageons à participer. Nous vous encourageons à présenter la demande. Janice, et voici une autre question, et c'est la dernière. Eh bien, j'espère que ma question soit simple à répondre. Pardon? Souvenez-vous que vous devez dire votre nom. Alejandro Costa, du Venezuela, boursier. Je vous demande, que veut dire consensus? Qu'est-ce que cela veut dire quand vous parlez de consensus? Le consensus, par l'ICANN, c'est 100% des gens qualifiés pour la transcription. Vous demandez quelque chose qui est bizarre. Qu'est-ce que c'est que le consensus? Personne n'a pu répondre à ces questions. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le consensus et qu'est-ce que c'est que l'intérêt public? Alors, si vous avez une idée là-dessus, je vous propose de nous le dire. Le consensus, dans le sens de la GNSO, a essayé de définir pendant des mois l'idée de consensus. Alors, on a parlé de consensus large, consensus complet. On parle de la majorité des gens qui sont d'accord avec une chose. À large, nous n'avons pas défini le consensus. En tant que président, je préfère de dire que c'est lorsque on est tous d'accord. Mais c'est pas le cas normalement. Et pas tout le monde est d'accord et c'est normal. Des fois, c'est pour des questions bien légitimes, mais il faut mesurer la température de la salle. Si la plupart des gens sont d'accord entre eux et on se dit, eh bien, bon, on arrive à un certain consensus. Et si cette majorité, c'est-à-dire, on est 15, et s'il y en a 7 qui sont pour et 8 contre, je peux dire, eh bien, on est divisé là-dessus, bien que l'on ait un vote de plus, là, il n'y aurait pas de consensus. Je crois que le consensus arrive lorsqu'il y a une ou deux voix contre la question que ce soit, compte tenu que lorsqu'on procède au vote, on compte les votes positifs. S'il y a 8 votes pour et 4 abstentions, les 4 abstentions sont comptées comme des votes négatifs. C'est en quelque sorte... C'est comme ça, l'abstention est considérée comme un vote négatif. Il y a des gens qui s'abstiennent parce que, eh bien, ils ne sont pas tout à fait d'accord, ils ne sont pas sûrs, etc. Notre comité est de 15 membres, je peux dire, contre... plus de 10, entre 10 et 11 personnes pour la question que ce soit, cela peut être considéré comme la majorité. Et là, on peut dire qu'il y a un consensus large. OK? Janice, je crois que je dois te libérer. Olivier? Prenez très au sérieux ce qu'Olivier vous a dit. Si vous courir à côté de lui dans toute la salle, allez-y. Nous l'avons déjà fait, d'ailleurs. Et maintenant, Anouche, une ancienne boursière, s'occupe du déjeuner des femmes du DNS où j'envoie toutes les anciennes boursières. C'est-à-dire, elle prend son petit déjeuner et nous, non, dit Olivier. Mais oui, on a du café là-bas. Janice, merci Olivier de ta participation. Nous te remercions le temps que tu nous as consacré. On apprend beaucoup des présidents qui viennent nous voir. On connaît la quantité de travail qu'ils ont à faire. Olivier avait 21 et quand je l'ai connu, et la charge de travail a augmenté de manière substantielle et j'apprécie énormément qu'ils viennent nous voir. Et ceci me rappelle que vous devez tous vous présenter en disant votre nom et si vous participez au nom d'une organisation, etc. pour les transcriptions. Si vous dites vos propres opinions, vous devez le dire clairement. Si vous venez dans la salle comme boursier ou comme nouveau venu, n'hésitez pas à vous asseoir autour de la table principale. On appartient tous à la même communauté. Vous savez bien que cette salle appartient au GAC et que les membres du GAC prennent leur place autour de la table. Mais les sièges, dans tous les autres cas, sont ouverts, sont disponibles pour tous les membres de la communauté. N'hésitez pas d'occuper une place autour de la table principale. On donne toujours la bienvenue aux nouveaux visages qui sont autour de la table et nous voulons que vous sentiez que vous êtes préparés pour prendre le micro et faire un commentaire. Et avant de passer la parole à Lisa, souvenez-vous d'éteindre le micro après votre speech. Très bien. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici et de vous raconter un tout petit peu du regroupement des entrepreneurs. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je m'appelle Alice Cooper. Je suis présidente du regroupement des entrepreneurs. Et je vais vous décrire notre regroupement, quelle est sa manière d'opérer, qu'est-ce qu'on fait, comment j'ai commencé à travailler à l'ICANN, comment j'ai démarré à travailler dans ce regroupement. Et tous ceux intéressés à ce que l'Internet soit plus sûr, vous pouvez venir me parler et voir comment vous pouvez participer de ce regroupement d'utilisateurs commerciaux. Je vais vous donner des informations de référence par rapport à ce regroupement et voir comment ça se passe au sein du diagramme de l'ICANN. Si vous voyez là, je crois que je viens à l'ICANN depuis 5 ans et tous les jours j'apprends de nouvelles choses. Hein. C'est peut-être un peu difficile au début, mais je veux vous montrer où se trouve le regroupement des utilisateurs. Voilà la GNSO de nos génériques. Là, vous voyez le groupe en jaune, je crois. C'est le responsable du développement des politiques pour l'ICANN. Et la GNSO est divisée en 2 chambres. On a la chambre des parties contractantes et la chambre des parties non contractées. Là, il y a le groupe responsable des bureaux d'enregistrement et des registres. De l'autre côté, il y a la chambre des parties non contractées. Et là, il y a les utilisateurs commerciaux des entreprises et les non commerciaux. Si l'on avance dans ce groupe, il y a la propriété intellectuelle et les fournisseurs de services Internet. Vous devez connaître tout ça? Non, pas forcément. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 2 groupes, les groupes non commerciaux et les groupes commerciaux. Et nous, nous appartenons aux parties prenantes commerciales. On est la voix des entreprises sur Internet. Il y a 3 points d'intérêt en particulier. Premièrement, nous voulons nous assurer que les utilisateurs finaux, à savoir les utilisateurs d'Internet, puissent utiliser l'Internet à des fins commerciales de manière sécurisée dans le domaine, c'est-à-dire le marché des noms de domaine est concurrentiel. Et ce qui est important et ce qui nous différencie du regroupement de la propriété intellectuelle, parce que cela garantit la stabilité et la sécurité d'Internet. Alors, il y a 3 domaines qui nous intéressent. Nous assurer que l'Internet soit sécurisé pour faire des opérations commerciales, que le marché fournissent beaucoup de possibilités et la sécurité et la stabilité. Moi, j'ai commencé à travailler à l'ICANN il y a 5 ans et j'appartiens à l'industrie des noms de monnaie de domaine depuis 11 ans. Et quand on a démarré l'histoire des nouveaux GTLD, j'ai commencé à m'intéresser davantage, à participer davantage, à faire un suivi continu de l'ICANN. Et j'ai commencé à suivre l'ICANN, non pas au regroupement, mais en regardant le site web, en faisant des séminaires web. J'ai fait le suivi de l'ICANN de cette manière-là. Par la suite, j'ai décidé d'avoir une participation plus active, que je devais participer davantage. On peut être écouté, on peut suivre les commentaires publics, on peut répondre, pas forcément à partir d'un regroupement. C'est une manière de se faire entendre, mais il est important, dans mon cas par exemple, c'était important de m'engager d'une autre manière. Il y a quelques années, j'ai donc décidé d'adopter une participation plus active et j'ai commencé à participer du regroupement des utilisateurs d'entreprises. Il y a différents types de membres, des membres qui correspondent à des sociétés multinationales très importantes, qui sont, c'est-à-dire c'est les 2000 sociétés globales les plus importantes. On a aussi des micro-sociétés d'une ou deux personnes. Alors, on a un vaste éventail de membres. Nous avons aussi d'autres entités géographiques. Alors, nous sommes intéressés à la diversité. Nous sommes intéressés aux différents types d'entreprises dans notre regroupement.
Alors, que faisons-nous en tant que groupe? Nous nous réunissons très souvent dans des téléconférences, nous faisons un suivi de tous les commentaires au fur et à mesure qu'ils sont émis à l'ICANN. Et en tant que groupe, nous travaillons pour réaliser une analyse de ces commentaires, nous préparons des commentaires, nous nous réunissons pour réviser des rapports qui sont publiés pendant les processus de commentaires publics. Donc voilà une bonne partie du travail que nous assurons. Nous faisons un suivi du processus de développement des politiques et nous faisons des commentaires. Et c'est un effort que l'on fait en groupe. Pendant tout ce temps, nous avons développé aussi nos commentaires et nous avons assumé certaines positions que nous pourrions réviser maintenant. Parfois, lorsque l'on posait une question, nous disions « Bon, nous avons déjà pris notre position à cet égard ». Bien des fois, nous avons fini par développer notre propre position au fur et à mesure qu'il y avait un traitement du commentaire ou du processus dont il fallait parler. Donc, c'est un processus qui se déroule constamment. Nous recherchons le consensus constamment. Lorsque nous adoptons une position en tant que groupe et que nous travaillons sur la partie fondamentale d'un thème pour pouvoir parvenir à un accord, nous essayons de parvenir à un accord avant de présenter notre position. Je crois que l'un des bénéfices de rejoindre notre regroupement, c'est que nous avons toutes sortes de membres en ce qui concerne les niveaux de connaissances, des expériences. Nous avons des membres qui font partie de l'ICANN depuis le début, qui ont une longue histoire, tandis qu'il y a d'autres personnes, comme c'est mon cas par exemple, qui travaillent depuis quelques années seulement, et il y en a d'autres qui nous ont rejoints plus récemment. Et nous apportons tous différents points de vue et nous apprenons tous les uns des autres. Quelque chose que j'apprécie beaucoup de ce regroupement des entreprises, c'est qu'une bonne partie de l'information qui peut être très complexe puisse devenir compréhensible pour le reste. Avec toutes les sigles, avec tout ce jargon qui est propre à l'ICANN, on peut avoir des difficultés pour comprendre ce qui se passe vraiment. Donc c'est l'une des choses que j'essaie de faire au sein de notre regroupement des commercial, que ce soit plus facile, un espace plus convivial pour naviguer dans les eaux de l'ICANN. Je voudrais donc maintenant vous céder la parole pour que vous posiez des questions. Je ne sais pas si vous avez des doutes sur ce que fait notre regroupement, sur les membres, enfin ce genre de choses. Voilà, je m'appelle Ariane Casala, je suis du Costa Rica, je suis boursier. Je voudrais vous poser une question. Pourriez-vous énumérer les trois thèmes principaux qui sont à l'étude au sein de votre regroupement, s'il vous plaît? Et comment cela pourrait être intéressant pour un membre futur ou un possible futur membre? Bon, c'est Alice qui prend la parole. Nous avons certains thèmes récurrents sur lesquels nous nous focalisons au cours des années qui reviennent. Normalement, pour les GTLD, nous voulons nous assurer qu'il y ait les mécanismes de protection nécessaires pour les entreprises. Ça a été l'un des thèmes les plus intéressants. Nous avons plaidé pour une amélioration des mécanismes de protection. Et je veux vous donner une définition de ces mécanismes de protection de droit. Il y a des politiques d'arbitrage qui ont été utilisées par le passé pour que les propriétaires des marques et des compagnies puissent protéger leurs marques sur Internet. Et nous leur demandons d'avoir différents types de mesures ou de méthodes pour que les propriétaires de ces marques ou de ces sociétés puissent avoir une protection. Avec le programme des nouveaux GTLD, vous avez dû entendre parler du centre d'information du bureau des marques ou des procédés et des procédures de résolution uniforme, le UDRP. Ce sont des mécanismes que nous avons demandés et qui ont été le résultat du travail que nous avons fait. Nous voyons d'autres améliorations qui sont développées. C'est quelque chose de très positif pour nous. Nous sommes très heureux de cela, mais cela ne suffit jamais. Donc nous faisons toujours pression pour améliorer ces mécanismes, pour établir des points ou des méthodes qui permettent aux sociétés, aux entreprises, aux personnes d'être protégées sur Internet. Un autre point qui fait partie de notre mission concerne la sécurité et la stabilité. Il y a certaines questions ouvertes maintenant en ce qui concerne les noms des domaines sans points, pour lesquels il peut y avoir des registres qui pourraient peut-être ne pas vouloir se servir du point. Et cela, soulève certaines craintes par rapport à la sécurité et à la stabilité. Nous voulons donc atténuer ces risques potentiels. Nous faisons un suivi de ces aspects et nous faisons des commentaires à cet égard. Il peut y avoir aussi certains points faibles par rapport à la sécurité en ce qui concerne, par exemple, un serveur interne qui pourrait être lié au nom d'un nouveau domaine ou d'un nouveau TLD. Il y a aussi cette question de la coalition sur l'espace des noms et les serveurs internes peuvent s'appeler comme on le voudra, mais avec les nouveaux GTLD, il va y avoir de nombreuses options. Donc il y en a certains qui se font du souci. Le souci de savoir ce qui pourrait se passer si certains serveurs internes ont un nom et dans d'autres noms de domaine, cela a d'autres noms et ce que cela signifie pour chacune des étapes. Le troisième point qui nous inquiète et auquel nous avons, sur lequel nous nous sommes centrés au cours du temps, c'est la question de l'information et qui est le propriétaire de cette information au point de vue du WHOIS. Et maintenant, des services de répertoire de GTLD, comme nous les appelons. Il y a, nous avons un très fort intérêt au travail que fait le travail des experts qui a un regard frais sur cette information et sur la manière dont cette information devrait être stockée, partagée à tous les points de vue. Donc voilà les trois thèmes principaux auxquels nous avons porter notre attention et qui seront prioritaires pour l'avenir. Merci donc de cette question que vous avez posée. Je m'appelle Pormagène, encore une fois, je suis boursier, je viens du Kenya. Comme nous avons demandé aux représentants de la LAC, je voudrais vous demander comment une petite société commerciale peut rejoindre ce regroupement commercial. Est-ce qu'on garantit qu'une petite entreprise aura le même poids dans sa voix qu'une multinationale telle que Google? En premier lieu, c'est Alice Cooper qui prend la parole. J'aimerais énormément que vous nous rejoigniez. Venez me voir pour que je vous donne ma carte professionnelle. Enfin, il n'y a pas. Je vais le dire autrement. Nous n'avons pas de membres qui ait des revenus dépassant 50% lorsqu'ils sont utilisés pour donner leur parrainage à un registre. Si plus de 50% des revenus proviennent de l'activité des parties contractantes, il se peut que ce ne soit pas le lieu approprié pour que vous ayez enfin un espace pour vous faire entendre, mais plutôt que vous ayez à parler avec les registres ou les bureaux d'enregistrement. Mais supposons que moins de 50% de vos revenus proviennent de ces activités de service en tant que bureau d'enregistrement ou registre, tous les membres de toutes sortes sont les bienvenus dans ce regroupement-là où il y a une différence en termes de taille entre une micro-entreprise et une grande multinationale, c'est au moment du vote. Et lorsque je parle du vote, je parle du vote pour les élections des fonctionnaires dans le regroupement ou des membres de comités de nomination. Là, il y a des votes. Donc, au point de vue d'une micro-entreprise, votre voix pourrait valoir un point et le vote d'une société plus grande pourrait valoir 3 points. Donc, il s'agit d'un vote pondéré. Lorsqu'il s'agit de discuter de nos positions ou de déterminer la manière d'aborder un rapport déterminé ou comment nous voulons émettre nos commentaires, la voix d'une petite société est entendue au même titre que celle d'une grande société. Il faut participer aux appels téléphoniques, il faut se faire entendre. Donc nous espérons que votre voix sera aussi forte que celle de tout autre. Bon, il y a Charlie qui reprend. Je vais enfin faire ce que je prêche. Est-ce qu'il y a des tarifs pour participer à un regroupement, à des regroupements? Alice reprend la parole. Oui, ce qui est bon, c'est qu'il y a une possibilité d'avoir des membres de la catégorie 2, c'est-à-dire si c'est une association. Si c'est une entreprise qui fait des activités dans plus de 2 régions de l'ICANN, elle serait membre de la catégorie 1 pour un voix de 3 points. Si c'est un membre d'une catégorie 2, ce serait une association ou un membre de catégorie 1. Cela signifie que c'est une micro-entreprise. Et les tarifs sont variables en fonction de la catégorie d'adhésion de membres à laquelle on appartient. Si on est une micro-entreprise, on paye un tarif minimal. Je ne me souviens pas en ce moment des montants, mais en général, on vous offre des tarifs réduits, surtout pour ceux qui sont des nouveaux membres ou pour ceux qui viennent d'autres régions du monde, selon le point du monde d'où l'on vient. Parfois, nous vous donnons des réductions dans les tarifs parce que nous savons que vous avez plus de difficultés pour venir. Bon, maintenant, Janice prend la parole. Ce que je veux dire, c'est que je crois que ce qui est le plus important, c'est que vous puissiez revenir chez vous avec cette notion que vous pouvez être entendu. Et puis, on voit comment on résout le reste des questions. Nous recherchons de nouveaux membres. En fait, c'est l'un des thèmes auquel je pense que nous pourrons nous focaliser sur le reste de mon mandat pour avoir des membres de tout le monde, de toutes sortes de sociétés, à moins que ce ne soit un registre, un bureau d'enregistrement. Ça, Janice dit, c'est une très bonne précision. Je crois qu'il y a une question aussi. Il y a 2 de nos boursiers qui font partie du regroupement des utilisateurs d'entreprises et qui sont aussi avocats. Vous avez parlé d'associations. On peut avoir l'impression que cela ne se rapporte pas à ce que l'on est. Les 2 personnes m'ont dit qu'elles étaient décidées à rejoindre ces regroupements des entreprises parce que ces 2 personnes sentaient que c'était le lieu où elles étaient le mieux, pouvaient être le mieux accueillies. C'était là qu'on pouvait leur expliquer quel était le modèle multipartite d'ICANN. Et c'est important parce que là, on se sent à l'aise, on sent qu'on a sa place au sein de l'ICANN. N'attendez pas qu'on vous dise cela. Pour chacun des groupes où l'on travaille au sein de l'ICANN, ceci peut servir comme un échantillon, pour ainsi dire, pour que l'on sache que l'on peut travailler avec le comité consultatif sur la sécurité et la stabilité. On a tant de choses à faire dans ce royaume de Lycan que l'on peut aussi rejoindre cette unité, ce regroupement, même si on n'est pas une entreprise traditionnelle. Bonjour, je m'appelle Wanku Bara du Kenya. Je suis l'un des boursiers. Je voudrais savoir pourquoi faut-il payer pour faire partie d'un regroupement. Est-ce que l'on fait de l'argent qui est payé pour pouvoir appartenir à un regroupement? Bon, si l'on fait partie de regroupement commercial, c'est l'occasion de travailler en groupe et d'apprendre des autres. C'est une bonne manière de se faire entendre, de faire entendre sa voix. Essayer de suivre tous les rapports et toutes les politiques qui sont développées en ce moment, c'est une tâche ardue. Donc, lorsqu'on participe à un groupe, on peut faire entendre son opinion sous différentes modalités, avec les différentes parties de la politique qui se développent en ce moment. Il se peut que l'on puisse suivre pour son compte tous les commentaires publics qui sont réalisés, y répondre à tous, mais c'est une tâche ardue. Donc l'un des bénéfices, l'un des avantages, c'est justement de pouvoir travailler avec d'autres et pouvoir comprendre quels sont les différents commentaires réalisés. Voilà donc les deux motifs principaux. Nous essayons d'aider les entreprises à naviguer, nous leur donnons un port pour qu'elles puissent être logées là. Nous nous réunissons toutes les deux semaines en téléconférence et on se retrouve en plus face à face. Mais ce n'est pas indispensable. Il y a des membres qui n'ont jamais assisté à des réunions en face à face, mais ils le font par les téléconférences pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Voilà les principaux motifs qui pourraient mener une personne ou une entreprise à rejoindre ce regroupement commercial. Parce que dans la complexité, nous leur donnons un lieu propre et on peut distribuer la charge de travail. Je m'appelle Clam et je viens du Pakistan. Je suis boursière. Je voudrais savoir si une société a un problème de sécurité. Comment on peut rejoindre ou se rapprocher du regroupement ou s'il faut passer par la procédure ALAC ou si l'on peut contacter directement le regroupement commercial. Merci. C'est Lisa qui prend la parole. Il y a des préoccupations concernant la sécurité qui sont le fait de toutes les entreprises en général. Selon le souci sur la sécurité que l'on aura, on peut s'en occuper. Nous nous centrons sur les problèmes de sécurité, sur l'industrie de nom de domaine, pas sur la vulnérabilité des sites web ou d'autres type de violation de la sécurité qui peuvent se produire sur le web si on se base sur l'industrie d'un nom de domaine. Mais ceux qui sont liés à la sécurité et qui peuvent porter atteinte aux intérêts de beaucoup d'entreprises sont des choses dont nous nous entretenons. C'est des choses dont nous parlons entre nous. C'est quelque chose sur lequel nous nous demandons si nous voulons soulever ce thème. Pour nous, soulever un thème signifie que nous, en tant que regroupement, nous avons deux membres qui participent à un conseil de politique qui est le conseil de la GNSO, l'organisation de soutien en nom générique. Il y a là deux personnes auxquelles on peut demander d'assister au conseil et de parler sur un thème déterminé. Il y a plusieurs façons de le faire. Si c'est quelque chose qui nous inquiète vraiment potentiellement, nous pouvons faire un commentaire pendant la période de commentaire ou même adresser une lettre au conseil d'administration. Cela dépend du thème en question, la modalité que l'on adoptera. Maintenant, c'est Janice qui parle. Nous allons recevoir la dernière question de participation à distance parce que l'on nous demande comment nous savons que 50% des revenus proviennent du registre ou pas. Quel est le mécanisme? Bon, nous demandons, c'est Alice qui prend la parole. Nous supposons que les gens nous disent la vérité. Je veux vous remercier, c'est Janice qui parle. Je veux vous remercier, vous tous, et je veux vous dire que j'ai fait ceci pendant les 6 années et demie. Et l'une des choses importantes, et je parle de l'ICAN et je parle en général, nous ne nous occupons suffisamment de l'éducation pour que les gens rejoignent ICAN ou qu'ils rejoignent les comités consultatifs ou les organisations de soutien. Il faut que nous disions ce que nous faisons et que nous disions aux gens pourquoi nous existons et ce que nous faisons pour qu'ils nous rejoignent. Tu as parlé très clairement. Parce que moi aussi, je suis assez curieuse de savoir ce que fait le regroupement commercial. Ta présentation a été très claire, Alice. On a été très, très éclairés par tes paroles. C'est Janice, dont maintenant, qui prend la parole. Nous allons donc clore ceci. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer si c'est des questions pour Lisa. Et je vais la lui renvoyer. Le regroupement de commercial a un newsletter, un bulletin électronique qui est ici. Lisa dit, bon, bulletin.